place publique.
Moutier est à nouveau sous le feu des projecteurs à 3 semaines du verdict sur les recours contre le vote du 18 juin. En tout cas, il est attendu à la fin du mois. Une liste confidentielle publiée dans la presse dimanche alimente les débats. Les uns en profitent pour reparler de tricherie, les autres parlent d'une vulgaire manipulation sans fondement. La parole aux deux camps dans un instant. La Suisse n'en fait pas assez pour lutter contre le tabac. Pire, elle favoriserait les intérêts des multinationales sur son territoire, aux dépens de sa population et de sa santé. L'accusation vient de Genève aujourd'hui, où sont réunis des experts de la question sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. On en débat tout à l'heure avec deux élus fédéraux. Enfin, nous évoquerons le virage numérique des médias suisses grâce au livre paru récemment sur la question et signé de notre confrère Nicolas Vimin, qui sera avec nous en dernière partie d'émission.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. À Moutier, la tension est remontée d'un cran depuis dimanche en cause des articles dans la presse dominicale et du journal du Jura que nous avons répercutés. Nos confrères évoquent l'existence d'une liste confidentielle et anonyme qui dénombre les départs et les arrivées de Moutier durant l'année qui entoure le vote du 18 juin. Une 60aine de cas sont répertoriés sans pour autant qu'il soit possible de savoir qui a voté oui ou non. Et on souligne que nous n'avons pas eu accès à cette fameuse liste. Le document, toutefois, a permis à leurs auteurs de relancer les soupçons de tourisme électoral, tandis que du côté des séparatistes, on voit dans cette démarche une manipulation et une violation de la protection des données. Alors, était-ce vraiment judicieux d'agiter l'opinion à quelques jours du verdict sur les recours contre le vote du 18 juin ? Eh bien, on a posé la question à Morena Posner, elle est membre du comité Moutier-Prévoté.
À mon sens, je pense que si cette liste elle a été publiée, c'est parce qu'il doit y avoir quand même des points importants, voire très intéressants. J'imagine qu'il doit y avoir des dates d'arrivée, des lieux d'arrivée, des départs de là où ils habitent effectivement, avec des dates aussi de départ. Et à mon sens, je pense que ça doit être ce genre de choses qui est important à retenir. Après, on parle d'une liste de 60 personnes.
Mais 60 personnes dont on ne sait pas ce qu'elles ont voté au final.
Alors ça, c'est clair. On ne peut pas dire ce qu'elles ont voté. C'est compliqué de voir sur un bulletin de vote. C'est pas signé des bulletins de vote. Donc, on ne peut pas savoir qui a voté quoi. Ça, c'est une évidence.
Et dans quelle mesure, du coup, 60 noms dont on ne sait pas ce qu'ils ont voté, dans quelle mesure c'est significatif de tricherie?
Alors, j'imagine bien que les personnes qui ont cette liste ont dû faire des parallèles par rapport au lieu d'arrivée. Je ne sais pas, j'imagine que peut-être il y a beaucoup de personnes qui viennent du canton du Jura. Donc on peut supposer que ces personnes-là ont voté clairement oui.
N'est-ce pas délicat, voire risqué, de sortir une liste dont on ne sait à peu près pas grand-chose à quelques semaines d'une décision quand même très sensible?
Mais tout a un risque dans cette votation. Quoi qu'on puisse donner comme information, quel que soit le document qui sort, tout a un risque. À un moment donné, il faut peut-être le prendre. Donc voilà, les personnes qui ont fait cette liste, pour eux c'était important de la faire paraître. Nous devons être à l'écoute des personnes qui représentent quand même presque 49% des votants de Moutier qui ont dit non. Nous devons être à l'écoute de leurs désirs aussi. On pèse le pour, on pèse le contre. Concernant cette liste, elle est sortie, ça devait avoir une certaine importance pour les personnes qui ont désiré la faire sortir.
Mais la chancellerie bernoise estime que 3 mois avant le vote, il n'y en a pas eu de tourisme électoral. Et en plus, le tourisme électoral, si c'est le fait de s'établir dans une commune à un moment donné pour y voter et d'en repartir, jusqu'à preuve du contraire, c'est conforme au droit politique.
En ce qui concerne cette fameuse liste d'ayants droit, le canton de Berne avait demandé cette liste 3 mois avant la votation. Le canton ne l'a jamais reçue, d'une part. La Confédération l'a reçue, mais quelque temps avant le vote, la municipalité devait apporter des rectifications sur cette liste. Ils ont demandé à ce que la liste soit remise 5 jours avant le vote à la Confédération, chose qui apparemment a été acceptée. Et cette liste d'ayant droit n'est jamais arrivée quand même 5 jours avant, mais le 17 au matin, une demi-heure avant l'ouverture des bureaux de vote, tout en précisant encore une fois que tout un cortège de personnes sont allées voter le vendredi. Moi, ça m'interpelle.
Et Morena Posner, cette liste vient-elle de vos rangs? Vient-elle de Moutier-Prévoté?
Absolument pas. Cette liste, nous, nous l'avons pas créée, contrairement à ce qu'on puisse dire, à ce qu'on puisse nous accuser. Cette liste ne vient pas du tout de Moutier-Prévôté.
Morena Posner, du comité Moutier-Prévôté, qui a pas pu être en direct avec nous, hein, car elle était prise en ce moment même par une séance du Conseil du Jura bernois, le CJB. Pour réagir à ses propos, on est avec Valentin Zoubert. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de Moutier-Ville jurassienne. Alors pour vous, Valentin Zoubert, on a pu vous lire sur le réseau social Facebook cette publicité qui est faite à cette liste dans les médias s'apparente à un grand délire.
Oui, totalement, parce que cette liste, d'abord, elle est anonyme, et je crois que les documents anonymes, il faut faire attention, surtout dans le contexte du vote de Moutier, où on a vu des militants pro-bernois jusqu'à des conseillers d'État essayer de fausser l'opinion publique en jouant sur la presse à scandale. Et puis, quand je parle de presse à scandale, j'y joins très volontiers le journal du Jura, qui manque totalement de déontologie depuis plusieurs années au propos de cette affaire du vote de Moutier. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai qu'il faut être extrêmement attentif. Et puis, quand on lit les médias, on apprend qu'il y a 60 personnes. Alors, c'est pas encore très clair si ce sont des allers-retours. Et il s'avère qu'en fait, non. Ce ne sont pas que des allers-retours. Il y a des citoyens de Moutier qui sont fichés et qui habitent toujours à Moutier dans cette liste. Et puis 60 noms sur 2 ans. Et en 2 ans, il y a du mouvement à Moutier. Il y a 1000 personnes qui arrivent ou qui partent par année dans la ville de Moutier. Et donc sur 2 ans, c'est 2000 personnes qui sont concernées. Et là, on sort par magie une liste de 60 noms, sort une sorte de chasse aux sorcières de 60 personnes qu'on n'aurait pas voulu voir voter. Et je crois que ça, c'est pour moi un vrai scandale politique, ça n'a pas lieu d'être. Et le seul but de cette action, finalement, c'est de jeter de l'huile sur le feu, de mettre la pression sur les autorités judiciaires et d'essayer de faire en sorte que la situation de Moutier dégénère.
Alors, s'établir ou partir de Moutier en un temps donné, ce n'est pas illégal, si c'est pour voter notamment. Mais est-ce que vous admettez tout de même que ces mouvements, voire ces allers-retours pour certains cas, alimentent les doutes, la défiance, voir le ressentiment des habitants?
Non, mais encore une fois, il faut reprendre les chiffres. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de tourisme électoral, que plusieurs études statistiques ont montré qu'il n'y en a jamais eu, c'est-à-dire qu'il y a toujours du mouvement dans une année, mais qu'il n'y en avait pas moins que lors des 20 années précédentes. Jusqu'à ce que je sache, il n'y avait pas de votation sur l'appartenance cantonale ces années-là. Et donc, il n'y a pas eu de mouvement. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est quand même assez éloquent, c'est que le nombre d'ayants droit, il était inférieur à celui des votations, qu'elles soient fédérales ou cantonales ou communales, des années précédentes. Donc, au final, on s'est retrouvé à voter à moins de prévotois que ce qu'on aurait pu attendre. Donc là, c'est quand même aussi assez significatif. Maintenant, sur les accusations, encore une fois, il faut remettre ce chiffre dans le contexte. On sort une liste de 60 noms. Il y a parmi eux quelques allers-retours. Selon certains médias, il y aurait autant de pro-jurassiens que de pro-bernois, encore que je crois que c'est absolument impossible de dire qui a voté quoi dans l'urne. Donc au final, on se retrouve avec quoi 90 personnes qui, sur 2 ans, auraient fait l'aller-retour. C'est pas sérieux. Voyons, franchement, c'est pas sérieux. Le travail journalistique qui a été fait, à mon avis, est périlleux. Et puis, surtout, c'est l'opération politique qui a été réalisée, qui, à mon sens, est extrêmement dangereuse. Maintenant, si vous me le permettez, puisque je vois que le temps avance, j'aimerais pouvoir réagir sur ce qui a été dit par Madame Posner. Madame Posner a menti. Elle a menti aux auditeurs. Et je crois qu'il faut absolument pouvoir corriger ça. Parce que le registre électoral, il a été arrêté 3 mois avant, et on a ôté à ce registre encore les personnes qui sont parties ou décédées. Et le vice-chancelier du canton de Berne et le canton de Berne l'ont tué, ce registre.
Ça a été dit dans la question. Par contre, elle parle, je crois, de la liste définitive du registre électoral.
Alors, la liste définitive, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que le vice-chancelier Michel Walter, qui coordonnait la campagne pro-bernoise, l'a exigé en fichier exportable? On parle de données sensibles. Et puis, pour en revenir au fait que la Confédération l'a eu, et bien, je vous rappelle juste que M. Geyser l'a eu le samedi matin et qu'il l'est le jeudi, le vendredi ou le samedi, ça ne change rien parce que le but c'était de pointer le dimanche les personnes qui étaient là ou pas sur cette liste. Donc le travail est le même. Du moment qu'on arrête le registre électoral au mardi, soit 5 jours avant, c'est le même travail. Donc là encore, on essaye de faire des vraisemblances de fraude, on essaye d'inventer des problèmes qui n'ont jamais existé pour éviter finalement l'inéluctable, c'est que cette votation, elle était parfaitement surveillée, parfaitement en ordre, et que l'écart de voix était suffisamment important pour avérer que Moutier est une ville jurassienne.
Et donc vous êtes serein, Valentin Zoubert, sur l'issue de ce vote. On aura la réponse dans 3 semaines, en tout cas pour le verdict de la préfecture. On vous remercie d'être venu. Vous êtes le porte-parole de Ville jurassienne, Moutier-Ville jurassienne. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci pareillement.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
La Suisse violerait-elle les droits humains car elle ne donne pas assez de moyens, elle ne se donne pas les moyens de lutter contre le tabac efficacement? Une centaine d'organisations non gouvernementales appellent la Suisse à ratifier sans délai la convention anti-tabac. Ces ONG ont adressé aujourd'hui une lettre au président de la Confédération, Alain Berset. Une action qui se tient dans le cadre d'une conférence mondiale sur la question à Genève cette semaine, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Place publique en profite pour lancer le débat et reçoit deux parlementaires autour de la politique de la Suisse en matière de lutte contre le tabac. En fait-elle assez? Avec nous, Raymond Clotu par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes conseiller national neuchâtelois, membre du groupe UDC. Et avec nous également, Hans Stöckli. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller aux États socialistes bernois. On commence avec vous, Raymond Clotu. Les chiffres sont ceux avancés par la Confédération. Chaque année, le tabac est responsable du décès de 9500 personnes et pèse pour 10 milliards de francs sur les coûts de la santé chaque année. Est-ce que c'est vraiment un bon calcul de ne pas vouloir réguler davantage l'industrie du tabac, ne serait-ce que pour, par exemple, limiter la publicité?
Mais je crois que nous régulons, j'entends, je suis tout à fait clair là-dessus. Il convient d'édicter des règles en matière de publicité qui sont claires, notamment au niveau des mineurs, et ça, je crois qu'on est plus ou moins tous d'accord là-dessus.
Les mineurs qui peuvent quand même être confrontés régulièrement à de la publicité sur le tabac, ne serait-ce que dans les magasins, les kiosques, les festivals.
Oui, mais là, je crois, encore une fois, maintenant, il y a un projet qui est à l'étude pour cette nouvelle loi. Et là, je crois qu'on est très clair qu'il faut avoir, en matière de publicité qui vise vraiment notre jeunesse, un cadre qui soit clair. Donc, on parle bien des mineurs. Maintenant, pour ce qui est, encore une fois, des adultes, là, c'est la responsabilité individuelle des adultes. Je crois qu'on a un système en Suisse qui fonctionne quand même assez bien, c'est la prévention. Je crois dans ce pays, elle est quand même efficace parce que depuis en 2001, nous avions le tabagisme se montait à 33%. Actuellement, il est à 25%. Donc, on peut bien voir que là, le système à ce niveau-là fonctionne.
Que répondez-vous déjà à cette réponse de Raymond Clotu? La prévalence du tabac baisse dans la population suisse selon ces chiffres. Et en plus, il y a un credo libéral derrière ça. Chacun est responsable de faire ce qu'il veut et la Suisse met en place ou peut mettre en place des outils de prévention à destination des mineurs. Alors, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de la politique de la Suisse anti-tabac?
Alors, moi, je soutiens l'idée que chacun est responsable pour soi-même. Et donc, mais on est aussi d'accord qu'il faut absolument interdire la vente des produits de tabac à des mineurs, oui. À des gens qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans. Alors, si on est d'accord, et M. Clotu est aussi d'accord avec ça.
Tout à fait d'accord.
Alors, il faut surtout entreprendre à ce que la publicité n'atteint pas ces jeunes. Et malheureusement, cher Raymond, contrairement à l'influence de l'intervention qu'a faite, la diminution vers les jeunes ne s'est pas produite parce que le nouveau sondage témoigne que les enfants et les gens entre le 15 et le 25 années aujourd'hui ont un taux de 31,6% qui ont déjà fumé ou bien qui fument. Donc, ce taux vers les jeunes est nettement plus élevé que chez les adultes. Et ça veut dire, bien sûr, que malheureusement, les mesures entreprises jusqu'à maintenant ne suffisent pas. Et il est très intéressant, lors du débat de la semaine dernière à la Petite Chambre haute, le représentant neuchâtelois, M. Raphaël Comte, était très surpris de l'hypocrisie qui règne dans les milieux de l'industrie du tabac parce que il n'est pas possible de dire que ouais, on se contente à interdire la publicité qui va directement aux jeunes, mais parce que les jeunes aujourd'hui, les enfants, ils sont confrontés à n'importe quel point de vente, n'importe quel événement, à n'importe quelle occasion à la publicité pour le tabac. Et le fait que, encore une fois, que plus que 6% de plus que la moyenne de la population par les jeunes, ils fument. Mm-hmm. Et
Raymond Clotu, une réponse à cet élément de Hans Stöckli, la jeunesse fume, elle a accès à cette publicité, il faut prendre des mesures.
Oui, mais alors j'entends bien mon cher collègue Hans, alors je suis tout à fait d'accord, alors absolument pour l'âge de minimal de 18 ans, parce que maintenant effectivement c'est cantonal, le canton de Neuchâtel on l'a adopté, hein, donc en dessous de 18 ans vous pouvez pas vous procurer de cigarettes ou de produits du tabac, qu'on soit très clair là-dessus, ça on peut le mettre au niveau national, il n'y a aucun problème. Il convient aussi, je pense, de mettre encore une fois un cadre qui soit clair pour la publicité vers les jeunes, c'est-à-dire donc au niveau des supports publicitaires remis aux mineurs, là ça doit être interdit, dans les publications destinées principalement aux mineurs, la même chose, dans les lieux et manifestations qui sont fréquentées principalement par des mineurs, là on est tout à fait d'accord, là je suis aussi favorable qu'on interdise la publicité. Donc là, il n'y a aucun problème, mais sauf on va un petit peu trop loin.
C'est hypocrite parce que il est complètement incorrect de dire oui, on se contente à la publicité qui est directement adressée aux jeunes. Parce que, encore une fois, on ne peut pas aller en ville ou bien dans un kiosque ou bien dans une manifestation où la publicité n'est pas visible. Et donc, tout, n'est-ce pas, pour moi, c'est clair. Tout ce qui est.
On vous a bien compris, Hans Stöckli. Raymond Clotu, sur cet aspect-là, très pratique. Hein. On ne peut pas éviter le contact avec la publicité pour le tabac, qu'on soit dans un kiosque, encore une fois, dans une manifestation. Donc, ça veut dire que si vous êtes prêt à interdire la publicité vis-à-vis des mineurs, vous êtes prêt à prendre des mesures quand même assez radicales.
Où nous sommes prêts à interdire la publicité, c'est la publicité ciblée aux mineurs. Ça, je crois que c'est très clair. Après, pour le reste, les mineurs, ils doivent aussi être... J'entends, il y a des parents derrière les mineurs. Je suis désolé, là, il doit aussi avoir un dialogue en famille en disant, oui, la cigarette, elle est nocive. Oui, il faut déconseiller à nos jeunes de fumer, comme on doit aussi les déconseiller de boire de l'alcool. J'entends ça, c'est un dialogue, mais qui doit aussi se faire éducatif, formatif, au niveau de la famille. Et ça me paraît important. Et ça, c'est aussi des responsabilités individuelles, je dirais, des adultes. Parce qu'à un moment donné, on arrête tout, j'entends, mais plus rien dans les étalages, comme ça, on va pas attirer l'attention des mineurs. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même rester pas pragmatique. Je crois qu'il convient...
Donc pas d'hypocrisie, mais du pragmatisme, c'est ce que vous nous dites, Raymond Clotu.
Pas d'hypocrisie, j'aimerais aussi dire à Hans, donc moi je ne fais pas partie de l'industrie du tabac, qu'on soit très clair là-dessus, mais je défends quand même notre système économique libéral, la liberté du commerce, où chacun doit, encore une fois, je le répète, prendre ses responsabilités. Mm-hmm. Je vais vous donner, on a des solutions pragmatiques.
Alors, on fait répondre Hans Stöckli.
Je partage l'idée que nous vivons dans un système libéral. Et ce système veut que ce qui est permis peut être aussi mis dans la publicité. Mais ce qui est interdit est aussi interdit dans la publicité. C'est pour ça que nous devons tout mettre en œuvre à ce que toutes les activités de marketing qui peuvent être atteintes par les jeunes ne peuvent pas être permises. Et je peux vous dire que les sondages sont assez favorables. Vers 60% de la population sont absolument d'accord qu'une interdiction générale de la publicité en faveur des produits du tabac soit introduite. Donc, il est clair que, n'est-ce pas, le tabac est tellement nuisible. Nous savons, vous l'avez dit au tout début, que 9500 personnes meurent chaque année à cause de ce tabagisme. Mais on sait aussi que les frais engendrés sont deux fois plus grands que l'industrie fait des bénéfices. Donc, même au niveau économique, cette histoire de l'abus du tabagisme n'est pas...
Et bien, sur cet aspect-là, on fait répondre Raymond Clotu, vous le dites, donc ça coûte plus cher au niveau du système de la santé publique que les revenus économiques. Raymond Clotu, c'est un argument, évidemment, qui nous touche dans l'arc jurassien, notamment à Neuchâtel. La Suisse est une place forte mondiale pour l'industrie du tabac, on le sait, avec Philippe Maurice à Neuchâtel, BAT à Boncourt. Est-ce que, finalement, vous ne faites pas passer les intérêts économiques avant la santé de la population?
Non, je ne crois pas qu'on fasse passer les intérêts économiques avant la santé de la population. population. Par contre, on doit trouver un juste équilibre. Et c'est ce qui a toujours fait la force de ce pays. C'est trouver justement ce compromis et cet équilibre. Et ça, je crois qu'on est en train de le mettre en place et on va le mettre en place avec cette nouvelle loi sur le tabac. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans l'excès. Et c'est ça que je crains. Moi, je suis contre un paternalisme excessif de l'État. Donc, il faut cesser cette tendance à prescrire toujours ce qui est bon pour les citoyens. Je crois qu'à un moment donné, les parents de nos enfants doivent aussi prendre leurs responsabilités. Et ça, ça fait partie de l'éducation. Moi, personnellement, je n'ai jamais fumé. Bon, on m'a toujours dit, effectivement, le tabac, c'est nocif, c'est mauvais. Ben, j'ai jamais été tenté à commencer à fumer. Voilà, donc ça fait aussi partie du rôle, de la responsabilité des parents. Et puis après, notre société, elle doit aussi faire de la prévention. Ça, je pense, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Je vous ai donné avant un chiffre par rapport où nous étions à 33% en 2001, maintenant on est à 25%. Si vous prenez la France, ça fait des décennies où la publicité pour les produits du tabac est interdite. Ben, ils sont actuellement à un tabagisme de 32%. Et avec une interdiction totale de la publicité.
Hans Stöckli sur cet aspect-là.
Donc ça, c'est
sur cet aspect-là.
Oui, mais tu sais très bien que le taux en France était nettement plus élevé qu'en Suisse. Et pour revenir à cet effet de l'interdiction de la publicité, le Valais la connaît, cette interdiction est aussi soleure. Et là, les chiffres sont nettement plus bas des jeunes qui commencent à fumer. Et, n'est-ce pas, on sait très bien que l'influence de la publicité, de tout ce qui fait le marketing, il est très grand. Et cette influence, elle est très grande. Sinon, elle ne serait pas faite parce que ça coûte. Et puis, la publicité, eh bien, elle a comme besoin, comme mission, comme objectif de gagner de nouveaux clients. Et le problème, il est très clair. La plupart des gens qui fument ont commencé à fumer nettement avant l'âge de 20-21 années.
Messieurs, c'est merci.
C'est pour ça que cette couche de population, elle est atteinte par...
On l'a bien compris.
Et c'est ça pour qu'il faut. Donc moi, je suis pour que la publicité...
soit interdite pour les jeunes, à destination des jeunes. Et donc, même complètement interdite.
Qui est promis, donc ce qui est possible, ce qui est à vendre, eh bien, on peut faire la publicité, mais ce qui est interdit, il ne faut pas faire la publicité. Hein. La publicité doit être, il faut interdire à ce que cette publicité atteint les jeunes.
Très bien, on a bien compris en tout cas. Messieurs, merci beaucoup. Le débat ne fait que d'être lancé, puisqu'il y a une initiative apparemment qui est en cours. Et puis un référendum aussi qui pourrait avoir lieu contre la nouvelle loi sur les produits du tabac si le texte ne devait pas rallier une majorité. On vous remercie d'avoir en tout cas lancé ce débat, messieurs. Raymond Clotu, conseiller national Neuchâtelois, et Hans Stöckli, conseiller aux États bernois. Bonne soirée à vous deux.
Merci à vous, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir, Raymond.
Au revoir.
Place publique. Depuis un quart de siècle, le monde n'est plus comme avant. Vous le savez, l'avènement d'Internet a bouleversé nos habitudes et changé la face du monde. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'information. Et un ouvrage nous raconte l'histoire et l'impact de cette révolution numérique pour les médias en Suisse. Nous avons le plaisir de recevoir son auteur, Nicolas Vimin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de publier Médias Suisses, le virage numérique, un livre paru aux éditions Alphil, collection Focus. Alors vous êtes historien de formation, journaliste. On vous connaît bien sûr parce que vous avez dirigé les rédactions de l'Express, l'Impartial et Arcinfo.ch durant plus de 10 ans. Cela dit, vous comptez aussi 30 ans d'expérience au sein des principaux médias romands. On les cite, La Liberté, 24 heures, Le Matin, Le Temps, l'Hebdo, la RTS. C'est important de les citer parce que qui mieux de vous finalement, qui mieux que vous, Nicolas Vimin, pouviez nous raconter cette mutation numérique?
Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans les médias, à la fois dans la presse écrite régionale, dans un journal suprarégional comme Le Temps. J'ai travaillé aussi chez Ringier dans des magazines, mais j'ai aussi travaillé dans l'audiovisuel, RTS, enfin ce qui était la TSR à l'époque, à la fois dans les médias traditionnels, mais aussi dans la version Internet.
Et donc, vous êtes dit à partir de quand, tiens, on est en train de basculer?
Ah, ce moment, il est extrêmement précis. Il date de la fin de l'été 1995, quand on a commencé à Internet, a commencé à se développer le web, la partie web surtout, multimédia, qui s'est fait et qui a débarqué venant des États-Unis en Europe et notamment en Suisse.
Et vous étiez où à ce moment-là ?
Alors à ce moment-là, j'étais à 24 heures. J'étais journaliste à 24 heures et je suivais un petit peu deux mondes qui étaient à l'époque assez séparés. J'étais journaliste économique. Je suivais l'industrie informatique. Et puis je suivais le secteur des télécommunications, des PTT, comme on disait à l'époque. Et puis je m'intéressais aussi au monde des médias. Et en fait, ces trois univers se sont regroupés, l'informatique, les télécommunications, les médias.
Et vous le racontez, ce scénario, vous racontez cette histoire dans votre livre qui se dévore, il faut le dire, comme un roman. On pourrait penser que c'est une histoire un peu technique. Eh bien non, vous l'écrivez de manière très vivante, avec des anecdotes. Vous revenez sur le débarquement du numérique dans les rédactions. Alors au commencement, ça semble déjà, hein, aujourd'hui, quand on en parle de la préhistoire, vous parlez de Swisstel, du vidéotexte. J'imagine que ça rappelle des souvenirs à de nombreux auditeurs. On est dans les années 80-90, et même si ça ne dure pas, c'est pas très attractif, eh bien on est frappé quand même que ça provoque chez certains des intuitions. Ils savent que tout va changer.
Alors il y a quelques médias qui s'intéressent à ce nouveau support, hein, ce qu'on appelait le vidéotexte, qui correspond, on en a beaucoup parlé en France, au Minitel. C'est un clavier avec un écran qui mettait... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui d'Internet, mais c'était un outil qui était multimédia et qui était interactif, en partie interactif aussi. Et notamment dans le canton de Neuchâtel, il y a eu pas mal d'initiatives. Les journaux se sont lancés. L'Impartial a été un des premiers médias en Suisse romande à ouvrir sa page Internet. Il y avait la commune, enfin ce qui n'était pas la commune, mais la région du Val de Travers, qui a fait partie d'une région modèle au niveau suisse, au niveau des télécommunications, des PTT, pour développer une activité vidéothèque. Il y a des entreprises qui se sont développées là-dessus. Et c'était vraiment un créneau, là.
C'était un créneau, il y avait des intuitions, mais ça a fait un flop parce qu'il y a aussi le web qui est arrivé par là. Et là, en Suisse romande, eh bien, il y a un média qui a joué un rôle pionnier, c'est l'Hebdo, qui a lancé le fameux Webdo. L'Hebdo qui aujourd'hui n'existe plus, c'est assez frappant, ça. Un pionnier qui aujourd'hui disparaît de la carte.
Alors ça a été assez long, hein, parce que effectivement l'Hebdo, enfin une petite équipe, c'est pas l'Hebdo qui a lancé, c'est deux journalistes au sein de l'Hebdo qui se sont dit ah bah tiens on va faire du web, et qui ont lancé le premier serveur internet, le premier serveur web média dans le monde francophone, même au-delà de la Suisse romande, hein, en Suisse évidemment. C'était au tournant, mais justement durant l'été 95, qui s'est ouvert en septembre, et il y avait deux personnes, ces deux journalistes, c'était Bruno Giussani, qui était un journaliste d'origine tessinoise, qui travaillait à l'Hebdo, et puis Joseph Rossi, qui était un Neuchâtelois d'ailleurs, d'origine, et qui travaillait à Lausanne, et qui ont développé ce premier service, avec une approche très journalistique, pas du tout... marketing et pas du tout commercial. C'était utiliser l'outil Internet que ça présentait. Ça a été des pionniers. Ils ont eu beaucoup de prix. Ils ont été très réputés. Au début, jusqu'à la fin des années 90, le Webdo était le site de référence médiatique en Suisse et même dans une partie de la francophonie. Et puis après, ben voilà, les choses se sont passées différemment. L'Hebdo n'a pas continué sur ça. Les éditeurs de l'Hebdo n'ont pas continué. Ils ont essayé de faire d'autres choses, d'autres expériences avec des blogs dans les années 2000. Ils ont créé notamment le Bondi Blog à l'époque, en 2005. Et puis finalement, ben, ils n'ont jamais véritablement fait travailler ensemble la partie print, le magazine papier, et puis les activités numériques qu'ils développaient, qui étaient des sortes d'expériences. Et finalement, ben, on a vu ce qui est arrivé en janvier 2017 avec l'arrêt de la publication de l'Hebdo.
Nicolas Vimin, le web, c'est aussi la perspective de jus de profit, hein, de profit économique. Et là, on voit qu'assez vite, la presse ne recueille pas ses fruits-là. Même avant Google et Facebook, la presse semble écartée, on sépare les activités.
Alors, effectivement, parce qu'en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des affaires, des acteurs extérieurs pouvaient faire des affaires sur Internet sans se passer des journaux. Historiquement, la presse était un support, un journal, et on mettait de la publicité, et ils vivaient ensemble. Il y avait ce média était le support comme la radio, et fait de la publicité à côté des nouvelles. Et là, avec Internet, on s'est rendu compte, certains acteurs se sont rendu compte qu'on pouvait faire faire des annonces, faire de la publicité, sans avoir besoin d'informations à côté. C'est des sites de petites annonces qui se sont développés. Et même des éditeurs, il y a un éditeur, Tamedia, qui est le plus gros éditeur de Suisse, il a développé des activités où il a racheté des activités de sites de petites annonces qui rapportent de l'argent, qui sont profitables, qui rapportent même beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas en lien avec l'activité médiatique qu'ils ont à côté. Donc il n'y a pas de financement croisé, qui était un petit peu le fonctionnement traditionnel des médias, que ce soit la presse écrite ou la radio commerciale.
D'où l'aggravation de certains problèmes structurels auxquels on assiste encore aujourd'hui. Dans l'histoire que vous racontez aussi, c'est frappant, c'est surtout les acteurs privés qui sont en pointe pour développer, pour s'emparer du web. La SSR vient un peu plus tard.
Alors la SSR arrive plus tard pour une raison assez simple, c'est qu'au début, dans les années 90, jusqu'en 2003-2004, la vitesse de transmission sur Internet est très lente. On se souvient, enfin les plus anciens, parce que maintenant ça devient un peu l'histoire, se souvient des premières connexions dans les années 90 avec le modem 56K, ça n'allait pas du tout vite. Et donc faire passer des sons et des images, de la vidéo, comme ce que propose la SSR, c'était difficile de faire ça sur Internet. À partir du moment où on est arrivé avec l'ADSL, la connexion câble et des vitesses de transmission assez élevées sur Internet, eh bien évidemment, la TSR, la RTS aussi. D'abord la RSR, d'abord la radio, parce que le son occupe moins de place, mais aussi la vidéo. Et aujourd'hui, ben voilà, on peut regarder un téléjournal, une séquence vidéo sur Internet. En 1998 ou 99, quand il y avait les premières expériences, c'était tout petit, c'était haché, et on voyait quasiment rien.
D'étudier l'histoire de ce virage numérique, de regarder la photographie du paysage web des médias suisses aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir ? Est-ce que vous avez des idées sur l'évolution qu'on doit attendre ?
Alors, j'ai pas voulu justement faire un livre seulement historique. J'ai aussi voulu dire par rapport à ce qui nous attend aussi, les perspectives qu'il y a, tant en termes de marché publicitaire, en termes de marché tout court, parce que il faut rentabiliser. Les médias doivent vivre. L'information n'est pas gratuite, contrairement à ce qu'on croit beaucoup sur Internet. Ça a un coût. Et la manière de raconter cette histoire aussi, comment est-ce qu'on doit vivre? Aujourd'hui, l'information, elle est disponible partout. Les services publics, les entreprises, elles peuvent communiquer directement, alors qu'autrefois, elles devaient passer par les médias, la presse écrite, la radio, la télévision. Aujourd'hui, elles peuvent s'adresser directement à leurs auditeurs ou leurs lecteurs via un site internet, et elles ne s'en privent pas. On voit que les services de communication, des pouvoirs publics, des institutions, développent beaucoup leurs activités internet, et on n'en parle pas là aussi des réseaux sociaux qui sont devenus des véritables... Et tout ça, j'essaye un peu d'expliquer aussi ça dans mon livre. Les trois, quatre derniers chapitres évoquent ça.
Et les réseaux sociaux qu'on lira dans le prochain volume, on espère, Nicolas Vimard ?
Alors, il y a encore beaucoup de choses à écrire. Il y a les réseaux sociaux, j'espère pouvoir écrire d'autres choses encore.
En tout cas, merci de nous livrer déjà cet opus, cet ouvrage, Médias Suisses, le virage numérique, donc un livre qui est sorti récemment et qui retrace cette histoire. Merci de nous l'avoir esquissé, Nicolas Vimard.
Merci de m'avoir écouté.
Et bonne soirée, à bientôt.
Merci.
Voilà comment s'achève Place Publique. On se retrouve la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui souhaiteraient réécouter cette émission, c'est bien sûr sur nos applications et sur nos sites internet. Merci à Yannick Frossard pour la réalisation. Bonne soirée.